de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le secrétaire général de l'ONU prévient qu'une pandémie peut déclencher un nouveau conflit. Israël réussit le test de l'intercepteur de missiles Arrow 2. Les Philippines ont commencé des essais cliniques du vaccin de COVID-19 russe en octobre. Il y a 14 nouveaux cas. La Nouvelle-Zélande devrait prolonger le confinement. 161 membres du Conseil assistent physiquement à la session annuelle du MPR-DPR. Des 114 ont assisté virtuellement. L'Union européenne et l'ASEAN lancent 3 projets de coopération au développement. KKP et WIPC ciblent les investisseurs d'Amérique et d'Australie. Voici le journal complet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que la pandémie de COVID-19 ne menaçait pas seulement les efforts de lutte contre la pauvreté mondiale et de construction de la paix. Les pandémies augmentent également les conflits existants et en créent de nouveaux. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, Guterres a déclaré le 23 mars qu'il avait demandé à toutes les parties belligérantes de mettre en place un cessez-le-feu pour se concentrer sur la lutte contre la pandémie. Les tensions dans un certain nombre de conflits à travers le monde se sont atténuées ou se sont calmées. Malheureusement, dans de nombreux cas, selon Guterres, jeudi, la pandémie n'a pas poussé les parties belligérantes à arrêter leur hostilité ou à accepter de mettre en place un cessez-le-feu permanent. L'Agence américaine de défense antimissile, MDA, affirme que Israël a testé avec succès l'intercepteur de missiles balistiques Arrow 2. Cet intercepteur est un système de défense pour empêcher les tirs de missiles à courte et moyenne portée. L'Agence de défense antimissile du Pentagone, au bureau du département américain de la défense, a déclaré dans un communiqué jeudi que l'intercepteur Arrow 2 avait réussi à exécuter la trajectoire prévue et détruire la cible. Le système d'interception de missiles Arrow 2 et la dernière génération Arrow 3 sont le bouclier high-tech d'Israël. Le porte-parole de la présidence philippine, Harry Roque, a déclaré jeudi que les Philippines prévoyaient de démarrer des essais cliniques pour un nouveau vaccin contre le coronavirus ou COVID-19 fabriqué en Russie en octobre. Dans l'essai clinique, le président Rodrigo Duterte devrait être inoculé, injecté dans un vaccin pour produire une immunité dès mai 2021. Harry Roque a déclaré dans un briefing que les essais cliniques de la troisième phase aux Philippines se dérouleraient d'octobre à mars 2021. Après qu'un groupe d'experts en vaccins a terminé son examen des essais de la première et de la deuxième phase menée par la Russie en septembre. La Nouvelle-Zélande a signalé 14 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, après que les autorités sanitaires ont continué à tenter de retrouver la source de l'épidémie de COVID-19 à Auckland. Cela a incité le gouvernement à reconsidérer l'option pour prolonger le confinement qui prend fin vendredi. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, telle que rapportée par CNA, a déclaré que le nouveau cas d'infection au COVID-19 comprenait un cas de l'étranger. L'augmentation du nombre de personnes exposées au COVID-19 porte le nombre de cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande à 36. Un total de 161 membres du Conseil ont assisté physiquement à la session annuelle du MPR-DPR 2020. De 174 ont assisté virtuellement de leurs lieux respectifs. Cela a été annoncé par le président de MPRRI, Bambang Suatyo, lors de l'ouverture de la session annuelle 2020 de MPR, DPR, DPD, qui s'est tenue au bâtiment Nusantara à Jakarta vendredi. Le président Joko Widodo, portant des vêtements traditionnels de Sabu de la province de Nusa Tenggara-Est, et le vice-président Maruf Amin étaient présents. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée consultative du peuple au MPR de l'Indonésie, Bambang Susatyo, a déclaré que la session annuelle de MPR n'est pas un ordre du jour de cérémonie, mais a une signification très importante pour les institutions étatiques et devient un forum pour défendre la souveraineté du peuple, renforcer la communication, favoriser la confiance du public à travers des rapports de performance sur la mise en œuvre des pouvoirs et des devoirs constitutionnels de chaque institution étatique. Lors de l'ouverture de la session annuelle de MPRRI, la 5e présidente de la République d'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, et le 6e président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudhoyono, ont assisté virtuellement. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Igor Drismens, a lancé trois nouveaux projets de coopération au développement entre l'Union européenne et l'ASEAN avec un financement total de 13 millions d'euros. Ces projets appuieront l'urbanisation et la gestion durable des forêts ainsi que l'Institut suprême d'audit de l'ASEAN. Lors d'une conférence de presse virtuelle à l'occasion de la journée de la coopération et des bourses ASEAN-Union européenne à Jakarta jeudi, Igor Drismens a déclaré que l'Union européenne était un partenaire très important de l'ASEAN dans la coopération au développement. Il a ajouté que l'Union européenne a apporté son soutien à la région de l'ASEAN en fournissant des fonds de 250 millions d'euros pour les programmes d'intégration régionale de 2014 à 2020. Aujourd'hui, l'Union européenne annonce le lancement de trois nouveaux programmes de coopération Union européenne-ASEAN. Je suis heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous lançons trois autres projets cette année. Le premier est le programme Smart Green City de 5 millions d'euros qui contribuera à l'urbanisation durable dans plusieurs villes de l'ASEAN et encouragera l'essence de solutions intelligentes dans l'ASEAN et avec l'Union européenne. Deuxièmement, le programme d'appui à la gouvernance forestière de l'ASEAN d'une valeur de 5 millions d'euros qui soutiendra la gouvernance et la gestion durable des forêts dans toute la région et travaillera sur le processus d'autorisation et le commerce durable du bois dans les pays membres de l'ASEAN. Troisièmement, le programme des institutions supérieures de contrôle de l'ASEAN, 3 millions d'euros, qui augmentera les échanges en matière de renforcement des capacités des plus hautes institutions de contrôle de la région et augmentera l'harmonisation et la transparence. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Igor Drismens, espère qu'avec le lancement de ce programme, l'Union européenne et l'ASEAN montreront un engagement fort à renforcer les partenariats et la coopération malgré la pandémie de COVID-19. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, collabore avec le Centre indonésien de promotion des investissements, ou WIPC, qui est sous la responsabilité du Conseil de coordination des investissements, pour cibler les investisseurs des États-Unis et d'Australie afin de développer le secteur maritime et de la pêche. Le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits de la mer et de la pêche, Dlanto Prabowo, dans un communiqué à Jakarta, a déclaré jeudi que KKP doit synergiser et coopérer avec toutes les parties prenantes du secteur de la mer et de la pêche pour créer des conditions d'investissement propices. En plus de rendre efficace la diffusion d'informations sur les opportunités commerciales potentielles et prospectives du secteur de la mer et de la pêche auprès des investisseurs potentiels au pays et à l'étranger. Selon lui, en coopérant avec WIPC, on espère qu'à l'avenir, il sera efficace pour promouvoir les investissements dans le secteur maritime et de la pêche. Serge Littor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et un peu le titre « Le conflit franco-turc se réchauffe ». Le président français Emmanuel Macron renforcera la présence militaire de son pays en Méditerranée orientale. L'intention de Macron était une réaction aux activités menées par la Turquie dans la région. Il a appelé la Turquie à arrêter l'exploration pétrolière et gazière dans les territoires de l'eau contestée avec la Grèce. Rapporté sur la page France 24, Macron a exprimé son inquiétude face à l'exploration unilatérale menée par la Turquie lors d'une conversation téléphonique avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Selon lui, un dialogue pacifique doit être poursuivi afin de réduire les tensions et de résoudre les différences. Sinon, Macron renforcera temporairement sa présence militaire en Méditerranée orientale. Ils ont été chargés de suivre la situation là-bas, qui signe de la volonté de la France de faire respecter le droit international. Les tensions en Méditerranée se sont intensifiées après que la Turquie ait envoyé le navire de recherche sismique Oruk Reis dans la région cette semaine. La Turquie est le pays garant de la République turque de Chypre du Nord ou RTCN. Le pays s'est toujours opposé au forage unilatéral du gouvernement chypriote grec en Méditerranée orientale. Ankara insiste que la TRNC a également des droits sur les ressources de la région. En 1974, après un coup d'État visant à annexer le Chypre par la Grèce, Ankara a dû intervenir en tant que force garante. En 1983, la République turque de Chypre du Nord a été fondée. Les décennies depuis ce moment, on a vu plusieurs tentatives pour résoudre les différends chypriotes, mais tout s'est terminé par un échec. La France et la Turquie sont toutes deux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, ou OTAN. Comme membres de l'OTAN, les deux pays devraient être en mesure de bien résoudre le problème afin d'éviter un conflit plus grand. Serge Littor, c'était le commentaire pour ce soir.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 août. Le 14 août 1947, l'indépendance du Pakistan. Le Pakistan a obtenu son indépendance de l'impérialisme britannique le 14 août 1947. L'indépendance a été obtenue après le mouvement d'indépendance dirigé par Muhammad Ali Jinnah. Après avoir adopté une nouvelle constitution en 1956, le Pakistan est officiellement devenu une république islamique. En 1971, une guerre civile a éclaté dans l'État du Pakistan oriental, ce qui a finalement transformé l'État en un nouvel État appelé Bangladesh. Le 14 août 1961, le président a introduit le mouvement scout. Le mouvement scout ou scoutisme en Indonésie a été lancé depuis 1923, qui a été marqué par la création de la National Pathfinder Organisation, soit NPO, à Bandung par le gouvernement colonial néerlandais. Le mouvement scout a été officiellement présenté au public le 14 août 1961. Peu de temps après que le président de la République d'Indonésie a conféré la bannière du mouvement scout avec le décret présidentiel numéro 448 de 1961. Depuis lors, le 14 août est devenu l'anniversaire du mouvement scout. Le 14 août 2007, la bombe à Catania, en Irak. Le bombardement de l'ancienne secte religieuse Yézidi a eu lieu le 14 août 2007 en Irak. Quatre attentats suicides ont explosé simultanément à Catania et à Jazira. Le Croissant Rouge irakien estime que la bombe a tué 796 personnes et en a blessé 1562. Les attaques visaient la communauté yézidi, qui est une minorité. Le bombardement a impliqué un camion-citerne et trois voitures avec 2 tonnes d'explosifs. Al-Qaïda est accusé d'être le groupe derrière la terreur. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement encourage les exportations de fruits locaux pour la reprise économique. Le gouvernement a lancé le 5e programme national de fruits avec le thème Mouvement pour la consommation de fruits indonésiens comme campagne pour encourager les gens à consommer des fruits locaux. Ce programme vise également à réduire la consommation de fruits importés. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, lors du lancement de ce programme à Jakarta, lundi, a déclaré que le gouvernement encouragerait les fruits indigènes indonésiens à devenir un acteur majeur sur le marché national des fruits et à augmenter les exportations comme l'une des mesures d'encourager la reprise économique nationale. Erlangga Hartarto a expliqué que le 5e programme national de fruits Nusantara pour explorer le potentiel commercial de fruits indigènes de l'Indonésie. L'événement qui fait partie du mouvement Fier Fabrique Indonésie a également socialisé les fruits indigènes de l'Indonésie aux consommateurs indonésiens afin de réduire la consommation de fruits importés ainsi que d'encourager une augmentation de la gros business des fruits indigènes de l'Indonésie. Erlangga Hartarto a ajouté qu'actuellement, la balance commerciale des fruits de l'Indonésie est toujours déficitaire de 19,1 millions de rupiah. La somme de ce déficit a été principalement influencée par les importations de 4 types de fruits, à savoir les raisins, les pommes, les oranges et les poires, pour une valeur d'importation totale de 16,7 millions de rupiah. Pendant ce temps, les types de fruits qui ont le plus contribué aux exportations étaient le mangoustan, l'ananas, la banane, le zalaka et la mangue d'une valeur de 986,1 milliards rupiah. Pendant la pandémie de COVID-19, les importations de fruits au premier trimestre de 2020 ont diminué de 14,5 tonnes, en baisse de 45% par rapport aux importations du mois précédent. Cependant, du côté de la production, les fruits locaux ont connu la tendance de l'augmentation de la production moyenne au cours des 4 dernières années de 10,12%. Il a souligné que l'augmentation de la production de fruits locaux augmente les opportunités d'exportation ainsi que les substituts aux fruits importés compte tenu de l'augmentation de la demande de fruits locaux depuis la pandémie de COVID-19, en particulier les fruits qui peuvent augmenter l'immunité corporelle et offrir des avantages pour la santé. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, a souligné que sa partie renforcerait la culture de variété de fruits tropicaux dans l'archipel, comme tenu la production de ces produits à la qualité et peut augmenter le taux d'exportation agricole. Pendant ce temps, le ministre du Commerce, Agus Supakmanto, a estimé que les produits horticoles, en particulier les fruits, ont un grand potentiel pour augmenter les devises de pays. Il a ajouté que l'un des fruits tropicaux de l'Indonésie qui a le potentiel de continuer à être développé est le fruit du dragon. Sur la base des données de l'Agence centrale des statistiques, la croissance des exportations de fruits du dragon est devenue l'une des plus importantes de la période janvier-mars 2020, s'élevant à 234,35%. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di hati anak negeri. Banggakanlah bangsa kita. Bersatulah
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Chers amis, c'était le programme magazine culturel vendredi 14 août 2020 intitulé La danse de Kotek Ogling. Bonne écoute. Ce solitaire, Kotek Ogling, est l'une des danses traditionnelles de Java orientale. Kotek Ogling vient de la langue javanaise Kotek, signifie un signe, tandis que le mot Ogling a pris le son de fond de cette danse. Comme son nom l'indique, ce mouvement de danse imite le comportement de Kotek signe. Dans la performance, Kotek Ogling est dansé par 4 danseurs, 3 danseuses et un danseur masculin qui agit comme un homme signe. Dans les performances, la danse Kotek Ogling est commencée avec l'entrée des 3 danseuses dans la scène. 2 des 3 femmes jouent un rôle de dame et le reste devient la princesse Dewi Sekartaji, à savoir la ville du royaume Jenggala Sidoarjo. Le danseur masculin agit comme Raden Panji Asmorobangun qui est venu du royaume Daha Kadiri. Ce mouvement et de danse raconte l'histoire de Raden Asmorobangun et Dewi Sekartaji qui est tombé à l'amoureux. Il aspire à construire une vie familiale harmonieuse. Kotek Ogling est un art populaire de village Tokawi, district Nawangan, région Spasitan Javaese. Kotek Ogling a été créé par Sutiman à la fin de 1962 et est conservé par les habitants de Javaese. La danse Kotek Ogling est habituellement réalisée pendant les événements des célébrations tels que le mariage, la circoncision et le rituel pour accueillir la naissance d'un bébé. Maintenant, cette danse est également organisée lors de la réception d'invités importants. La danse Kotek Ogling est accompagnée d'instruments javanais gamelan, d'instruments de percussion traditionnels et le focal de cymbal. C'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec l'autre sujet plus intéressant. Merci à tous.
Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter l'information sur l'armée nationale indonésienne développe des pneus de voitures par balle sans air. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, en général, les pneus de véhicules ont besoin d'air. Mais avec la sophistication technologique, de nombreuses parties tentent de développer la technologie de pneus sans air. Les pneus sans air fabriqués par la Polytechnique de l'Armée nationale indonésienne, Politecad, de commandement du développement de la doctrine de l'éducation et de l'instruction de l'Armée nationale indonésienne, Kodiklat IAD, sont une nouvelle idée dans le domaine automobile national. Ce pneu a un avantage, il est étanche, qu'il soit percé par un clou ou tiré par une balle. Le général de brigade Nugraha Gumilar, commandant du Kodiklat Politecat, a expliqué qu'actuellement les pneus sans air sont en phase d'amélioration de la qualité. Par la suite, si la recherche et le développement aboutissent à un pneu sans air prêt à l'emploi sans autre test, il est possible qu'il soit produit en série. Les pneus sans air fabriqués par l'armée indonésienne TNI semblent creux sans air à l'intérieur. Pour fixer ces pneus à l'ECU, 5 boulons sont utilisés sur la jante de la voiture. Ce pneu fabriqué par TNI-AD peut facilement traverser divers domaines testés comme les routes plates, les routes rocheuses, les rochers rugueux et même les rangées de clous. Les pneus restent dans leur position d'origine et ne subissent pas de manque de pression, c'est-à-dire des gonflés. À l'avenir, ce pneu sera utilisé sur les véhicules militaires TNI-AD dans la zone de combat. Chers amis, le brigadier général Nugraha Gumilar, commandant du Kodiklat Politecad, a déclaré que la fabrication de pneus sans air était inspirée par le fabricant international de pneus Michelin. Cette entreprise française de pneumatiques est connue pour développer depuis plusieurs années des pneumatiques sans air pour les voitures particulières. En le fabriquant nous-mêmes au niveau national, Nugra a souligné que la communauté ne dépendrait plus des produits étrangers plus tard. Cela réduira le besoin de pneus sans air importés parce qu'ils se trouvent en Indonésie. Il estime que la qualité des composants automobiles fabriqués par les étudiants de Politecad ne sera pas inférieure à celle des étrangers. Chers auditeurs, c'est tout la rubrique l'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée « L'armée nationale indonésienne développe des pneus de voitures par balle sans air ». Merci beaucoup de votre attention, au revoir.
hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di panasmu. Lola pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi insan bermata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa gelap. Ku kan setia bersamamu kasih.
Auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson de Mandar Sulawesi West intitulée Tenggang Tenggang Lopi. Cher ami, cette chanson raconte l'histoire d'un capitaine qui navigue dans un bateau qui se déplace en se balançant sur la mer. La chanson Tenggang Tenggang Lopi est une chanson classique de la très célèbre région de Mandar. Cette chanson est une chanson souvent utilisée pour représenter la tribu Mandar. Comme la plupart des autres chansons classiques, le créateur de la chanson Tenggang Tenggang Lopi est également inconnu. Malgré tout, l'amour de la jeune génération Mandar pour ses chansons traditionnelles a conduit un jeune homme nommé Ifan Suadi a réorganisé la chanson traditionnelle en musique pop électrique ou populairement connue sous le nom de musique EDM et a invité une belle fille nommée Putri Reski à la chanter. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Tenggang Tenggang Lopi chantée par Putri Reski. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.